un homme, une femme porte des vêtements, se revêtent de vêtements. Les chrétiens, ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, se revêtent de Jésus-Christ, de manière plus générale, de justice, mais de Jésus-Christ. C'est une image employée très souvent dans la Bible pour nous parler du fait que les chrétiens s'enveloppent de qualités, de vertus qui appartiennent à Jésus-Christ. Ils s'enveloppent de Jésus-Christ lui-même. Et les qualités et les vertus de Jésus sont les plus admirables des vêtements qu'on puisse porter, n'est-ce pas? Depuis des mois, quelques mois, nous avons fait défiler une top modèle qui porte ses qualités, l'église de Thessalonique. Mais vous savez que quand une top modèle ou un top modèle défile, il ajoute de la valeur au vêtement. C'est lui qui met le vêtement en valeur. Mais pas pour l'église de Thessalonique. C'est parce qu'elle a porté des vêtements de qualité. C'est parce qu'elle s'est parée de ces vêtements qui appartiennent à Jésus-Christ qu'elle est parue ou qu'elle est apparue comme un top modèle. Ce n'est pas le vêtement qui fait... Normalement, c'est le top modèle qui fait le vêtement. Là, c'est le vêtement qui fait le top modèle. Et cette église est vraiment parmi les églises qui nous stimulent, qui nous donnent envie de lui ressembler, d'être comme elle. L'apôtre Paul, écrivant à ses chrétiens de Thessalonique, leur dit « Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Un modèle. Alors, comment ne pas nous inspirer de cette église qui est un modèle selon l'apôtre Paul lui-même? Elle est devenue un modèle pour les premiers chrétiens, non seulement dans son église, dans sa région, mais au-delà même. Et elle est aussi pour nous aujourd'hui modèle. Nous voulons vraiment l'imiter. Nous voulons dire de tout notre cœur, voilà l'Église à qui nous voulons ressembler. Alors bien sûr, nous ne prétendons pas du tout y être arrivés. C'est encore un chemin à parcourir. Mais c'est important pour nous de nous donner un but, comment dire, de voir quelqu'un qui incarne les qualités chrétiennes, les valeurs de l'Évangile, et de dire, mais je veux en être, je veux ressembler à telle personne, à telle église, et moi-même me parer de ces vêtements qui font que je ressemble à Jésus-Christ en cherchant à ressembler à ces personnes ou à ces églises, parce que ces églises ressemblent d'abord à Jésus-Christ. Notre cœur aspire à vivre et à être comme cette église de Thessalonique, dans la réputation, dans les valeurs, dans la foi, dans l'amour, en rayonner au-delà de ses murs, au-delà de la ville, pour arriver jusqu'aux régions, là où elle habitait. Alors, nous avons fait défiler cette église top modèle pendant des semaines et des semaines, et chaque fois, elle nous a présenté un vêtement différent. Ces vêtements différents, vous les avez sur une feuille que vous avez reçue. Je vous laisse découvrir ça à la fin, parce qu'on n'aura pas le temps de voir ça. Mais nous sommes arrivés, comment dire, aujourd'hui, c'est le dernier moment, c'est le dernier défilé, c'est le dernier vêtement. Et je voudrais prendre le temps de vous présenter ce vêtement, le dernier, porté par cette église, l'église de Thessalonique. Ce vêtement, il en est question dans la première lettre, et dans la deuxième lettre écrite par Paul à cette église-là. Si vous regardez le verset 25 du chapitre 5, on est tout à la fin de l'épître, vous lisez ces paroles. « Frères et sœurs, priez aussi pour nous. » Frères et sœurs, priez aussi pour nous. Et puis, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 5, je lis ce passage avec vous. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Donc, si vous avez une Bible, vous pouvez chercher le passage. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 1 à 5. Si vous n'avez pas de Bible, vous avez le passage qui s'affiche à l'écran. Finalement, frères et sœurs, priez aussi ou priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Voici l'assurance que nous avons à cause du Seigneur à votre sujet. Vous faites ce que nous vous recommandons et vous continuerez à le faire. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. Verset 1. Finalement, frères et sœurs, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande rapidement et qu'elle soit honorée ailleurs comme elle l'est chez vous. Paul avait une habitude qui revenait souvent, c'est que chaque fois qu'il était sur le point de finir une lettre ou des lettres qu'il écrivait aux églises, il demandait une chose particulière à ces églises-là. Il demandait aux chrétiens avec qui il était en communion qu'ils prient pour lui. Vous savez qu'il a pour habitude de commencer ses lettres en priant pour les chrétiens à qui il écrit. Et puis à la fin, il se tourne vers ces chrétiens en leur disant « C'est à votre tour maintenant, c'est à vous de prier pour moi ». L'apôtre de Jésus-Christ, tout apôtre qu'il était, tout grand qu'il était convaincu qu'il avait besoin de la prière des autres pour que son ministère fructifie, pour que l'évangile progresse et pour que les obstacles nombreux soient éliminés. Frères et sœurs, priez pour nous. Voilà ce qu'il demandait. Paul savait que c'est grâce à la prière des chrétiens que l'évangile peut avancer. Et ce que je voudrais, ce matin, s'il n'y avait qu'une chose à retenir avec laquelle chacun de nous devrait partir, c'est cette vérité-là qui va s'afficher en grand sur l'écran. En grand. Ah. Grâce à la prière des chrétiens, la bonne nouvelle de Jésus se répand dans les vies et triomphe de tous les obstacles. C'est grâce à nos prières que la bonne nouvelle se répand dans les cœurs et elle triomphe des obstacles. C'est très important de comprendre ça et de vivre cette réalité-là. Je voudrais d'abord commencer par vous montrer celui qui prie. Qui est celui qui demande la prière ici? Merci Esther. Esther, ça me rappelle toute la semaine. Elle lève la main. On est à l'école. Celui qui prie, celui qui demande qu'on prie pour lui, c'est... Vas-y Esther. Ah, merci. Celui qui demande la prière, c'est l'apôtre Paul. Dans le passage, hein. C'est l'apôtre Paul. Mais c'est vrai que tu as raison. Si l'apôtre Paul demande qu'on prie pour lui, cela nous montre une chose, c'est que nous avons tous besoin de demander la prière des autres. C'est très important. Regardez celui qui demande à prier pour lui. C'était quand même celui qui a vu le Seigneur Jésus ressuscité. C'était celui qui parlait face à face avec le Seigneur puisqu'il a été transporté jusqu'au troisième ciel. L'apôtre Paul, quand on lit ses prières, on est étonné de la profondeur, de la connaissance qu'il avait de ce Seigneur qu'il servait. Et c'est cet homme-là qui demande qu'on prie pour lui. C'est cet homme-là qui se sentait le besoin que les autres intercèdent auprès de Dieu en sa faveur et pour son ministère. Alors s'il l'avait fait une fois, seulement aux Colossiens, aux Thessaloniciens, on serait dit, bon, c'est peut-être comme ça en passant, c'est un hasard, pas du tout. Si vous lisez les épîtres de Paul, vous allez voir que à toutes les églises à qui il a écrit, il a demandé la prière sauf à une, sauf à Galate. Aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et aux Thessaloniciens, il a demandé à chaque fois qu'il prie pour lui. Un exemple, les Romains, voilà ce qu'il leur demande. Je vous le demande, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que donne l'Esprit, combattez avec moi en priant Dieu pour moi. Et je pourrais citer les autres épîtres, mais vous chercherez les passages. Paul, quand il écrivait, il demandait aux chrétiens qu'ils prient pour lui, non pas en passant, non pas par politesse, non pas par tradition, mais absolument par conviction. Il savait qu'il avait absolument besoin du soutien dans la prière des autres pour que son ministère fructifie, pour que l'évangile avance et pour que Dieu soit vraiment honoré par ceux qui entendent la parole de l'évangile. Il a toujours demandé à ceux avec qui il était uni en esprit qu'il prie pour lui et qu'il le soutienne pour que sa parole proclamée soit une parole reçue par les autres et une parole qui convainc les cœurs. Paul savait que chaque fois qu'il se tenait devant les autres pour leur parler de Dieu, il avait absolument besoin que les autres se tiennent devant Dieu pour parler à Dieu de ces hommes-là. Je le répète, quand Paul parlait aux hommes de Dieu, il savait qu'il avait absolument besoin que ses frères et sœurs se tiennent devant Dieu pour lui parler de ces hommes-là, afin que ces hommes-là se tournent vers le Seigneur et trouvent le salut. Si Paul, tout grand qu'il était, apôtre de Jésus-Christ, sentait cette nécessité qu'on prie pour lui, à plus forte raison, nous avons absolument besoin de prier les uns pour les autres, pour notre vie quotidienne et aussi, j'allais dire surtout, pour notre vie de témoignage, pour notre vie individuelle, mais aussi pour notre vie en tant qu'Église. Nous avons besoin de la prière. C'est grâce à la prière que la bonne nouvelle de Jésus-Christ trouvera un chemin dans les cœurs. C'est grâce à la prière que la vérité de l'Évangile convaincra les autres. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Mais vous savez que l'Évangile, si je pouvais prendre une image, je dirais c'est comme une bombe. Une grenade. Si je vous lançais une grenade, est-ce qu'elle va éclater ? Je crois qu'il faut d'abord la dégoupiller. Eh bien, la prière, c'est dégoupiller la parole de Dieu pour qu'elle explose dans toute sa puissance. Elle est puissante, mais Dieu a choisi que par notre prière, cet évangile explose avec plus de force encore et atteigne encore plus d'humains afin qu'il leur apporte non pas la mort comme les bombes, mais la vie et la paix et le pardon en Jésus-Christ. Et chaque fois que nous prions, nous sommes en train de dégoupiller l'Évangile afin que sa force éclate avec plus d'énergie et avec plus de force. Et comme l'apôtre Paul demande qu'on prie pour lui, eh bien moi, je vous demande de prier pour moi. Je vous demande vraiment de le faire. Peut-être que je ne le demande pas assez, à regret, et j'ai tort. Mais vous pouvez faire la même chose que moi, en disant, prie pour moi, par conviction, par besoin, par nécessité, parce que nous avons besoin de la prière les uns des autres, pour notre vie de tous les jours, et pour notre témoignage auprès de ceux que nous côtoyons, qui nous sont chers, et que nous voulons voir venir à l'Évangile, parce que venant à l'Évangile, ils viennent à la vie, ils viennent à la paix, ils viennent au pardon de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de prier ? Et qu'est-ce que nous demandons dans nos prières ? Nous avons vu qui prie, qui demande la prière ? L'apôtre Paul, à plus forte raison nous. Mais qu'est-ce qu'il demande précisément ? Deux choses qu'il demande dans ces versets que nous avons lus. La première chose, c'est que l'Évangile progresse. Priez pour moi, ou priez pour nous, parce qu'il était avec Silas et Timothée, priez pour nous pour que la parole de Dieu se répande rapidement, dit-il. Pour que la parole de Dieu se répande rapidement. Littéralement, pour que la parole de Dieu court. Il utilise cette image de la course. La parole de Dieu, c'est comme un athlète qui se met sur le chemin pour aller vers la victoire. Mais vous savez qu'il peut y avoir des obstacles, malheureusement. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle annoncée par Paul et ses amis. Et il veut que cette parole soit reçue avec foi et reconnaissance. Il veut que cette parole soit accueillie comme elle est, une parole de Dieu et non pas une parole humaine. Et il a besoin que les autres intercèdent pour lui, pour que tel soit le cas dans le cœur des gens. Ce qui intéresse l'apôtre Paul, c'est le progrès de l'Évangile. C'est l'avancement de la bonne nouvelle dans l'Empire romain à cette époque-là. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le progrès de l'Évangile dans notre quartier, auprès de nos amis, auprès de notre famille, auprès de ceux que nous côtoyons, parce que l'Évangile, c'est une vraie bonne nouvelle à apporter aux autres. Elle n'est pas reçue toujours comme une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que nous avons besoin que Dieu intervienne, que Dieu convainque les autres et leur montre qu'ils ont affaire à une bonne nouvelle. Paul demande qu'on prie pour le progrès de l'Évangile, mais il demande aussi qu'on prie pour sa protection, parce qu'il ajoute « Et afin que » au verset 3, au verset 2, « afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas la foi. » Quand l'apôtre Paul se tenait devant les hommes, certains ouvraient leur cœur à Dieu. Ils recevaient ce que Paul disait, non pas comme une parole humaine, mais une parole de la part de Dieu. Et leur cœur ouvert à cette parole, leur vie était bouleversée. Leur vie était véritablement transformée. Mais tous ne réagissent pas de la même manière. Paul dit « tous n'ont pas la foi ». Si les uns répondent en ayant confiance en ce que Paul disait, d'autres se méfiaient de l'apôtre Paul, d'autres résistaient, d'autres allaient même jusqu'à devenir violents, parce qu'il peut y avoir des intérêts qu'on ne soupçonne pas. Pour certains, l'apôtre Paul touchait à leur business. Pour d'autres, l'apôtre Paul touchait à leur pouvoir. Pour d'autres, l'apôtre Paul touchait à leur travail. Par exemple, les Éphésiens allaient fermer boutique parce qu'ils ne pouvaient plus vendre leurs petites idoles. C'était le business et le travail. Pour d'autres, c'était le pouvoir. Les Juifs, chaque fois que l'apôtre Paul ouvrait la bouche, ils ameutaient le peuple pour le mettre contre lui. Quand il écrit aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul était à Corinthe. Et si vous regardez le chapitre 18 de Actes, les Juifs ont fomenté un coup contre l'apôtre Paul pour qu'il soit mis en prison. Ils l'ont traîné devant le juge pour qu'il soit arrêté. Et on comprend pourquoi Paul, en écrivant aux Thessaloniciens de Corinthe, leur dit « Priez pour ma protection. J'ai besoin que vous me placiez devant Dieu afin que Dieu mette sa main sur moi et que l'Évangile ne soit pas empêché. » Parce qu'au-delà de tout, ce qui importe à Paul, ce n'est pas sa personne, c'est l'Évangile. Il sait que l'atteignant lui, on mettra un frein à l'Évangile. Et ce qu'il veut, c'est que son mandat que Dieu lui a confié, c'est-à-dire faire connaître la parole de Dieu, ne soit pas freiné. Et c'est pour cela qu'il demande la prière. Et c'est le mandat que Dieu nous a confié. Que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit proclamée et soit annoncée et que nous soyons les témoins de cette bonne nouvelle. Sans la prière, sans l'intercession en faveur de ceux qui parlent et en faveur de l'Église qui parle, nous serions vraiment freinés et empêchés. En tout cas, ce que je vous demande, ce que je nous demande à tous, c'est d'être dans cet esprit de prière afin que la bonne nouvelle de Jésus-Christ progresse. Que nous répondions comme les Thessaloniciens. Quand ils ont reçu les lettres de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous ? Ben, je crois qu'ils se sont mis à prier pour l'apôtre Paul. Ils se sont mis à genoux certainement pour lever des mains innocentes vers le Dieu du ciel en intercédant pour cet apôtre et pour ses amis. Alors je me suis imaginé une prière qu'ils auraient faite. C'est une prière que j'imagine. Elle pourrait être cette prière-là. Mais en tout cas, si elle n'était pas la leur, elle peut être la nôtre aujourd'hui. Alors je vais vous lire cette prière que j'ai écrite pour qu'elle serve, non pas de modèle, mais qu'elle donne une idée de la manière dont on peut prier non plus pour l'apôtre Paul, mais pour chacun de nous. Seigneur, nous avions dévoué notre vie à servir les idoles. Nous les implorions. Elles étaient sourdes. Nous leur demandions des réponses. Elles étaient muettes. Elles avaient des yeux, mais nous ne voyaient pas. Des oreilles, mais nous ne nous entendaient pas. Une bouche, mais elles ne nous parlaient pas. Mais ta parole a couru jusqu'à nous. Nous l'avons accueillie avec foi et reconnaissance, comme une parole divine et non humaine. La bonne nouvelle de Jésus, ton Fils, a été annoncée par tes envoyés, par Paul, par Timothée, par Silas. Tu as accompagné leurs paroles avec la puissance et la persuasion de ton esprit. Ton esprit a touché nos cœurs, a ouvert nos oreilles, a disposé notre volonté, a renouvelé notre intelligence. Et tu as changé notre vie. Tu t'es révélé à nous comme le Dieu vivant et vrai, le Dieu que nous cherchions aveuglément et qui s'est laissé trouver par nous. Maintenant, Seigneur, maintenant, nous te prions pour tes messagers, pour Paul, pour Silas, pour Timothée, qui sont à Corinthe. Nous te demandons, Seigneur, de les garder du malin. Nous te demandons, Seigneur, de les délivrer de ceux qui veulent leur faire du mal. Et surtout, Seigneur, que ta parole qu'ils proclament, que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus se répande avec puissance, qu'elle trouve des cœurs assoiffés, qu'elle agisse dans la vie pour la changer, qu'elle soit reçue avec confiance et joie. Nous te prions que ta parole soit comme la rosée du matin. Lorsqu'elle descend sur les cœurs, elle les rafraîchit. Qu'elle soit comme du pain et qu'elle nourrisse ceux qui ont soif et faim de justice et de paix. Donne ta grâce, donne ton courage, donne ta hardiesse à tes envoyés. Bénis leurs paroles, bénis leurs actions, bénis ceux qui les écoutent. Ouvre le cœur à ceux qui les écoutent et donne-leur de l'assurance et assure-les de ta protection. Amen, Seigneur. Amen. C'est un exemple de prière que nous pouvons faire. Ce que nous avons besoin, c'est de prier pour que cette parole de Dieu vivante et puissante pénètre les cœurs et transforme les vies. Ce dont nous avons besoin, c'est que nous comprenions que sans la prière du peuple de Dieu, il y aura moins d'efficacité. Il y aura moins de pertinence pour que la parole de Dieu agisse et accomplisse son œuvre. Nous avons besoin de présenter nos amis, nos familles. Nous avons besoin de présenter tout ce que nous connaissons parce que nous les aimons et parce que nous voulons le meilleur pour eux. Et je suis convaincu que le meilleur pour un homme, une femme, un enfant, c'est qu'il fasse la rencontre avec Jésus-Christ. Parce que la lumière, d'un coup, entre dans sa vie. La vérité, d'un coup, éblouit son âme. Son intelligence est renouvelée, son cœur est restauré, sa vie est transformée. Aujourd'hui, il y a des obstacles qui se dressent devant les gens. Ah, ce ne sont pas des hommes violents qui viennent les arrêter pour leur dire « Tu n'écouteras pas ». Ce ne sont pas des hommes violents qui viennent nous arrêter pour nous dire « Tu n'écouteras pas » ou « Tu ne parleras pas ». Non, il y a des obstacles, ce sont des idées. Ce sont des idées nocives. C'est l'argent. C'est les calomnies. C'est l'ignorance. Il y a des jeunes qui ont besoin de l'amour de Dieu, qui ont besoin de connaître la vérité. Il y a des moins jeunes qui ont besoin de connaître la voix de Dieu. Mais on leur dit « Non, ne cherche pas par là, c'est le mauvais chemin. Ne va pas vers l'Évangile, ne va pas vers Dieu, il ne fera rien pour toi. » Et les gens entendent, les gens écoutent, on leur raconte des mensonges. Ce sont des obstacles qui se dressent devant les gens et qui barrent le chemin de leur cœur à la parole de Dieu. Alors nous n'avons pas autre arme avec laquelle lutter que la prière. Mais c'est l'arme la plus authentique et la plus puissante. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, en intercédant pour ces jeunes, pour ces moins jeunes, en disant « Seigneur, regarde, Regarde les obstacles qui les empêchent de venir jusqu'à toi. Regarde les obstacles qui veulent empêcher ta parole d'arriver jusqu'à eux. Nous te prions, enlève ces obstacles. Nous te prions, Seigneur, éclaire les cœurs, éclaire l'intelligence, enlève ces choses qui aveuglent les gens et apporte-leur ta lumière. Lorsque nous prions, Dieu écoute. Parce que la prière que je venais de faire des Thessaloniciens, peut-être pas exactement la même, elle a été entendue. Parce que l'apôtre Paul, qui était à Corinthe, qui leur demande de prier pour lui, une fois qu'il a envoyé sa lettre, après, il reçoit la vision de Dieu qui lui dit « Parle et ne t'inquiète pas, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et à la fin d'un an et demi que Paul a passé à Corinthe, des milliers et des milliers de personnes se sont converties. Ils se sont convertis par son témoignage, mais c'est parce qu'il y avait des églises qui priaient pour lui. Non seulement Thessalonique, mais d'autres qui priaient pour lui. Et c'est grâce à ces églises-là que l'évangile s'est répandu. Et on peut dire que ces croyants qui priaient pour l'apôtre Paul ont participé à son œuvre d'évangélisation. Ils étaient partenaires de son œuvre pour le progrès de l'évangile. Et chaque fois que l'un de vous, l'un de nous, prie pour d'autres afin que l'évangile progresse, c'est comme s'il tenait la main à celui pour qui il prie et il marche avec lui. Peut-être que tu n'es pas à côté de moi lorsque je parle à mon ami, mais si tu pries pour moi, c'est comme si tu l'étais. Peut-être que je ne suis pas à côté de toi lorsque tu parles à quelqu'un de l'évangile, mais si je prie pour toi, c'est comme si j'étais à tes côtés. Et ce que tu dis, ton œuvre, j'y participe et Dieu me le compte. Dieu me le compte. Je ne cherche pas à ce que Dieu me le compte. Mais je vous dis cela pour dire que c'est très important de savoir que la prière, ce n'est pas une activité à l'arrière-plan. Bien au contraire, c'est un combat au devant. Et c'est ce que nous avons besoin d'accomplir chacun de nous. Une dernière question. Nous avons vu, mais qui demande la prière? Nous avons vu, mais qu'est-ce qu'il demande dans sa prière? Et maintenant, mais au bout du compte, pourquoi l'apôtre Paul demande-t-il qu'on prie pour lui après tout? Pourquoi est-ce qu'il demande aux autres qu'il prie pour lui? Plusieurs raisons. Très rapidement. La première, lorsque vous demandez à quelqu'un de prier pour vous, vous reconnaissez par là votre totale dépendance de Dieu. L'apôtre Paul se savait totalement dépendant de Dieu. La deuxième chose, lorsque vous demandez à quelqu'un de prier pour vous, c'est parce que vous êtes absolument conscient de votre incapacité de faire quoi que ce soit par vous-même. L'apôtre Paul a dit très souvent, ne vous trompez pas, je suis conscient de mon incapacité. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, comme il le dit par exemple aux Corinthiens, chapitre 3, verset 2. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Celui qui nous fortifie, c'est Dieu. Quand Paul se tenait devant des hommes et qu'il leur parlait de l'évangile et qu'il le lapidait, il savait très bien que ça ne dépendait vraiment pas de lui. Il avait beau parler, il pouvait avoir les plus beaux discours, certains n'étaient pas convaincus. Bien au contraire, il devenait agressif. Alors il se rendait compte que le combat n'avait pas lieu sur un plan humain, ça se passait ailleurs. Et donc il avait besoin que les autres prient pour lui et il avait besoin que Dieu intervienne. Parce que quand je parle, parfois, je peux m'exprimer le mieux possible, ça passe à côté. Les gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça que Dieu seul peut accomplir son œuvre. C'est l'Esprit seul qui peut intervenir et convaincre les cœurs durs, les cœurs morts, les cœurs sans vie divine. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul le savait très bien, parce que lui aussi avait un cœur mort. Lui aussi avait un cœur rebelle. Lui, il a même tué des chrétiens. Donc, son aveuglement, il le connaissait très bien. Et il savait que seul Dieu avait la puissance de le rendre voyant, de lui enlever son aveuglement. Alors il comprend que ça ne dépend pas de lui, ça dépend de Dieu. Il y a des hommes qui sont aveugles et qui ont besoin de la lumière du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui puisse leur donner la lumière. Nous ne sommes que l'instrument que Dieu nous utilise. Mais nous ne pouvons pas par nous-mêmes convaincre les gens ou leur montrer toute la beauté de l'évangile, toute la grâce que Dieu apporte le cadeau extraordinaire que Dieu met à la disposition des humains. Alors nous avons besoin de prier pour que Dieu apporte cette vérité au cœur des gens. Nous avons besoin de la prière afin que Dieu convainque chacun. Et si l'apôtre Paul demande qu'on prie pour lui, ce n'est pas seulement parce qu'il dépendait totalement de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il se savait incapable par lui-même de convaincre qui que ce soit, c'est parce qu'il savait aussi à qui l'on s'adressait dans ses prières. Ce n'était pas le Dieu idole, avec des mains mais qui ne peut pas bouger, avec des yeux mais qui ne pouvait pas voir. Non, c'est le Dieu vivant et vrai, et c'est le Dieu fidèle. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous préservera du malin, ou il vous préservera du mal. Donc il demande aux Thessaloniciens de prier pour lui pour être gardé du malin ou du mal, et il leur dit, mais à mon tour, je pense à vous et je prie pour vous afin que Dieu, qui est fidèle, vous garde du mal et vous préserve et vous fasse grandir. Et il leur demande, et il prie pour eux en demandant à Dieu la même chose pour eux. C'est parce que pour l'apôtre Paul, Dieu est fidèle et donc il accomplira son dessein, il accomplira son projet, que l'apôtre Paul demande qu'on prie pour lui auprès de ce Dieu-là. Maintenant, j'aimerais vous présenter, en ayant choisi des versets dans les Écritures, le Dieu à qui nous nous adressons, le Dieu qui écoute nos prières. Et c'est un encouragement pour chacun de nous pour nous adresser à lui et le supplier. C'est le Dieu de toute consolation. C'est le Père des miséricordes. C'est le grand berger qui prend soin de ses brebis. C'est celui qui impose le silence aux anges pour écouter attentivement la douleur de ceux qui souffrent. C'est le Dieu de notre salut. Quand on crie à lui, il entend. C'est le Dieu qui exauce la voix de mes supplications. C'est le Dieu qui écoute la prière. C'est le Dieu qui habite les lieux élevés, mais il est avec les gens qui sont abattus et accablés. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Voilà quelques exemples qui nous montrent à quel Dieu nous nous adressons. C'est celui qui écoute la prière et qui l'exauce, qui répond. Non seulement Dieu est fidèle pour écouter nos prières, mais nous savons que l'un des mots qui qualifie le plus notre Dieu, c'est qu'il est le Dieu sauveur. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est le Dieu sauveur. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne désire qu'aucun se perde, mais que tous le connaissent et trouve la paix et le pardon à ses côtés. Si Dieu est un sauveur, si Dieu est fidèle, c'est le plus grand des encouragements pour nous de le prier afin qu'il sauve. Alors là, si vous voulez savoir une chose pour laquelle vous pouvez prier sans jamais vous tromper, sans jamais vous poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu ? Priez pour la conversion des gens. Priez pour que la parole de Dieu progresse. Vous êtes à 100% dans la volonté de Dieu parce que Dieu veut que tous soient sauvé. C'est sa volonté. Et il fait en sorte que l'évangile avance et nous le prions pour que l'évangile avance pour cela. On pourrait continuer, mais peut-être que le mieux à faire, c'est de prendre quelques instants pour mettre en pratique ce que nous venons de dire. Et je vous demande quelques mots, quelques paroles, que chacun se sente la liberté de prier pour le témoignage de notre Église, pour notre propre témoignage, pour les gens que nous aimons, que nous connaissons, pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu se révèle à eux. Je vous laisse le temps de prier.